Bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous sommes le lundi 3 juillet 2023 et nous sommes heureux de nous retrouver dans le studio de Canal FM et de vous savoir très nombreux à l'écoute, que ce soit sur les antennes de la nouvelle génération à Lomé, ses environs, ou encore par les biais des médias partenaires, Radio Courtoisie à Dapan, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Central FM à Sokodé, Radio La Paix, la voix des plateaux à Takpamé, Radio Lumière à Néron, et ce n'est pas fini, dans le monde entier, vous nous recevez, vous nous écoutez par Eben Radio, Radio Le Bénin ou toutes autres applications techniques, nous vous saluons. Et nous saluons et félicitons les techniciens qui nous accompagnent au jour le jour. Et aujourd'hui, ce lundi, c'est le duo Victor Bekoku Michel Tominga et Jérôme Kodjo Akucha. Les confrères, dont deux sont déjà au studio, nous en entendons deux autres. Mais découvrons la pensée du jour quand Gandhi nous enseigne que la plus petite des actions vaudra toujours mieux que la plus grande des intentions. Encore une fois, la plus petite des actions vaudra toujours mieux que la plus grande des intentions. Et aujourd'hui, ce lundi, nous allons parler de la presse togolaise avec les lauréats que nous récoltons ici et là, mais également les défis qui restent sur notre chemin et ceux dont nous sommes confiants nous-mêmes. Ensuite, deuxième chapitre, c'est la chasse au financement pour les infrastructures, les projets d'avenir, avec d'importantes assises qui s'ouvrent à Lomé aujourd'hui, qui continuent jusqu'à demain. À lire les journaux, je suis tombé sur l'hôpital Dr Lafia, qui revient au plateau, vous en saurez tantôt pourquoi. Et puis, ce phénomène de société, avec les jeux de hasard ou les jeux de la chance, qui ont le vent en poupe, des sociétés de boissons qui lancent des jeux par des capsules, la Lonato qui lance de nouveaux jeux avec de nouvelles opportunités. Nous allons en parler, puis terminer avec le bilan de l'Assemblée nationale qui vient de boucler la première session ordinaire de l'année 2023. Au studio, déjà à nos côtés, Uriel Kekpala et Niang de Mega Info, bonjour.
Tu disais Kakpala.
Kakpala.
Kakpala, voilà, c'est le nom. Mm-hmm. Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Bonjour spécialement à ces deux techniciens, grâce à qui les gens nous écoutent chaque jour. Vous savez, ils sont comme des pilotes dans un avion. Un pilote et son co. S'ils décident de nous malmener ici, on ne pourra rien faire.
Et tu sais, Uriel, c'est pourquoi je suis toujours gentil avec eux avant d'entrer au studio. Ils peuvent tourner un bouton à l'envers et puis c'est fini.
Ah oui, donc on doit savoir les gérer chaque jour.
Merci. Harry Miaou Tchanyao, bonjour.
Je te salue, Sas. Je salue les Togolaises et les Togolais qui nous suivent en ce moment. Je voudrais souhaiter une agréable semaine à toutes et à tous.
Merci. Je compte sur vous et les deux confrères qui vont nous rejoindre pour la synthèse de vos commentaires, pour que nous puissions aborder ces nombreux sujets. Mais commençons par ce vieux constaté. Si vous êtes sur les réseaux, Uriel, tu as sans doute appris qu'un enseignant au lycée de Mango, qui a quitté Mango pour rallier Kara pour la correction du bac 2, qui commence aujourd'hui, ce collègue enseignant, a fait un terrible accident de la circulation. Selon les informations, il serait mort sur le coup. Et certaines informations laissent entendre qu'il voyageait sur sa moto de Mango à Kara. Il a trouvé la mort hier, mort brutale. Il est mort. Et puis ce matin, nous sommes tombés sur un communiqué, plutôt une note de l'office du BAC qui informe tous les acteurs convoqué pour la correction du bac à Lomé, à Takpamé, à Kara, de voyager soit à bord de leur propre voiture ou de voyager à bord des voitures de transport en commun. L'office du bac qui déconseille fortement les déplacements à dos de moto pour les acteurs du bac 2. Uriel.
Voilà, c'est bon, l'information, avant qu'elle ne soit plus précise, s'il n'est pas encore décédé, nous lui souhaitons prompt.
Il est décédé.
Il est décédé là. franchement désolé et condoléances à sa famille, condoléances à toute la profession enseignante, condoléances à tous les Togolais. Je connais très bien Mango, je connais la distance qui sépare Mango de Kara. Quand vous quittez Mango, Mango, Gando, Kanté, Défalé, Nyamtougou jusqu'à Kara, ce n'est pas une petite distance. Et il faut dire aussi que de Mango à Kanté, c'est pratiquement un vide. Et quand vous arrivez à ces endroits-là, il faut faire extrêmement attention. Lorsque vous voyez le poids lourd là derrière ou devant vous, et ils font comme si bon et toute la route leur est due et que vous qui êtes sur la moto, c'est à vous de rentrer dans la bourse. Franchement, c'est pas bien. Nous continuerons à sensibiliser, à demander à tous les usagers de la route de préserver la vie de tous ceux qui se trouvent sur la route chaque jour. C'est très important. Vous voyez, ce monsieur, il s'est levé pour aller corriger le bac et il trouve la mort. Ça sera difficilement oubliable pour sa famille, pour ses collègues et pour l'ensemble des Togolais que nous sommes. C'est-à-dire, il n'était pas malade, il trouve la mort comme ça. On peut éviter certaines choses et que l'office du bac prenne les dispositions aussi pour accompagner ces enseignants qui vont pour
corriger. Merci. Malheureusement, à chaque fin d'année, les collègues enseignants convoqués pour la correction du bac, il y en a toujours qui meurent. Dont ce malheureux collègue hier, et tout porte à croire qu'il voyageait de Mango à Kara à dos de sa moto. Et en réaction, l'office du BAC signifie à l'endroit de tous les acteurs convoqués pour la correction du BAC de voyager soit à bord de leur propre voiture ou plutôt à bord des voitures de transport en commun. L'office du BAC paie quelque chose pour les déplacements. Déconseiller donc les déplacements à moto, peut-être pour éviter, prévenir de tels accidents. Nous continuons avec la presse togolaise, avec ce mérite, ce prix que vient de récolter Ferdinand Haïté depuis son lieu d'exil, mais également les défis qui sont les nôtres au quotidien. Ferdinand Haïté, indésirable chez lui, mais primé à l'international. Ceux qui ont acheté le journal Liberté du vendredi dernier ont sûrement pris connaissance de cet article à la page 2 intitulé « Prix international de la liberté de la presse 2023 ». Le comité pour la protection des journalistes récompense d'éminents défenseurs des médias dont notre compatriote et confrère et collègue et ami Ferdinand Vincent Haïté, avec d'autres lauréats qui viennent de la Géorgie, de l'Inde et du Mexique. Et Liberté écrivait que les lauréats de cette année ont continué à couvrir l'actualité malgré les mesures de répression prises par les gouvernements, les enlèvements, l'exil et la criminalisation croissante de leur travail, défendant ainsi l'importance des reportages indépendants en cette période critique. Toujours vendredi dernier, le Canard indépendant, lui aussi, écrivait un article intitulé « Prix international de la liberté de presse 2023 ». Ferdinand a été parmi les lauréats et ce prix est décerné depuis il y a 33 ans. Le prix international de la liberté de la presse et le dîner de gala du comité pour la protection des journalistes mettent à l'honneur des journalistes courageux à travers le monde. Et depuis hier samedi, des organisations de presse ont commencé à publier des communiqués pour se réjouir de cette distinction décernée à Ferdinand et aux autres confrères des autres pays. Arim Yang Chanyao.
Félicitations d'abord à Ferdinand Haïté et ensuite à la presse togolaise. Et pour dire que le comité pour la protection des journalistes est connu de toute la communauté des journalistes par le monde entier. Et le prix que Ferdinand, notre compatriote, notre ami, notre frère, comme vous l'avez si bien dit, a gagné, ce n'est pas un prix à minimiser, parce que c'est un prix très important. Et à partir du moment où c'est le CPJ, tout le monde sait ce que ça représente. Et cela témoigne que notre compatriote, vous l'avez dit, qu'il est indésirable. Mais chez lui, mais loin de chez nous, il a été primé. Ça veut dire que quelque chose de bien se fait au Togo. Quoi que les gens puissent penser à dire, la presse togolaise, elle travaille bien, parce que quand on a quand on veut désigner Ferdinand, on dit le Togolais. Donc c'est tout le Togo qui doit se réjouir de ce prix, et je crois que ce n'est pas seulement au micro de Canal ici, nous l'apprenons. Tous les Togolais ont dû l'apprendre sur RFI, sur beaucoup d'autres chaînes, et les réseaux au plan mondial, les gens ont suivi, et tout le monde sait que c'est quelque chose de très intéressant, de très important. On ne peut que se réjouir et partager cette joie avec l'ensemble des Togolais en disant une fois encore, félicitations, félicitations et surtout, beaucoup de courage à notre compatriote, à notre frère et ami Ferdinand Ayité.
Merci. Juste rappeler que Ferdinand Vincent Ayité, qui a dû précipitamment et dans l'urgence prendre la poudre d'escampette, pour ne pas dire fuit, harcelé qu'il était avec son rédacteur en chef Isidore Kouonou dans cette affaire-là et avec le procès que nous connaissons. Procès contre eux intenté par les ministres de la Justice et du Commerce pour outrage et consorts. Voilà, et le prix sera remis à Ferdinand et à ses trois autres co-lauréats le 16 novembre 2023 à New York. Ce sera aux États-Unis d'Amérique. Jean-Baptiste Atisse, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM, à ceux qui nous écoutent de par le monde entier.
Peut-être que Ferdinand nous écoute depuis là où il est,
là où il
lui-même
est
qui a décerné ce prix à toute la presse togolaise.
Oui, justement, et c'est l'occasion quand même de saluer le travail que notre confrère et ami Ferdinand Ayité faisait depuis des années déjà, parce que nous avons tous cheminé ensemble et on a vu son courage et sa détermination à lutter contre surtout l'injustice, les violations des droits humains et la lutte surtout contre la corruption, un mal qui gangrène notre pays. Et je crois que la toute dernière émission qu'il a eue à laquelle il a eu à participer sur Taxi FM, si ma mémoire est bonne, il a, oui, avec Chaniao aussi qui est dans ce studio aussi, à Taxi FM, je disais, donc il a eu quand même le courage de le dire, que dans un pays où la corruption gangrène, la corruption est le maître mot, alors se taire est une preuve d'abdication, et il a quand même insisté sur le fait que on ne doit pas, en tant qu'homme de médias, on ne doit pas se taire devant les cas de détournement de deniers publics qui ont cours dans nos pays sous-développés. Et donc, ce travail, il l'a fait, et il l'a fait à sa manière, jusqu'à ce que la poursuite là qui a eu de la part de deux ministres, tu l'as dit tantôt, mais je tiens quand même à dire que avec courage, il a tenu bon jusqu'à ce que ce procès qui... d'une façon ou d'une autre a entraîné sa fuite, si on le dit avec amertume, mais je crois que le monde entier suit le travail qu'il fait dans ce pays, et aujourd'hui les fruits sont là, et ce prix qui lui est décerné par le CPJ, alors qu'il n'est pas une institution des moindres, je crois que c'est l'occasion quand même de dire que vraiment du bon travail se fait au Togo, mais même si les autorités semblent ne pas nous donner du prix, ne pas apprécier à juste valeur le travail que nous faisons en tant qu'hommes de médias au Togo, je crois qu'à l'international, on nous apprécie, et la preuve, c'est que ce prix lui est décerné. Maintenant, je crois que ce prix... au même moment est un camouflet pour les autorités togolaises, parce que un journaliste qui fait son travail de façon professionnelle, mais vous l'harcelez, vous le poursuivez jusqu'à son dernier retranchement aujourd'hui, il n'est pas au pays, mais je crois que ce prix que le CPJ vient de lui décerner, c'est une preuve et c'est un camouflet pour le gouvernement togolais. Je ne sais pas si un moment viendra où ça pourrit, mais est-ce que le CPJ aura à décerner un prix pour le Fonia Singbe et son gouvernement pour les harcèlements, les intimidations?
Pas des journalistes,
bien sûr, c'est une façon de dire, de parler. Donc,
merci. Donc, je disais tantôt que depuis là où se trouve Ferdinand, a dédié son prix à toute la presse togolaise. Urel Kakbala,
Et moi, je voudrais saluer d'abord le courage de Ferdinand Ayité. Ferdinand Ayité, c'est un grand frère, c'est un doyen dans la corporation. Et j'avoue que depuis que je suis journaliste, Ferdinand Ayité et moi ne nous sommes jamais rencontrés. Mais j'ai beaucoup félicité son travail. Vous savez, j'ai suivi son intervention sur RFI. Oui. Après ce prix-là, il a réagi avec humilité. Il n'a pas trouvé ce prix comme étant un prix qui vient ternir l'image de tel et ouvrir l'image de l'autre. Non. J'ai beaucoup aimé sa réaction. Maintenant, et tout ce que moi j'aimerais dire à l'endroit de nos autorités, c'est que les plaignants ouvrent une clémence. Ouvrent une clémence, tout est possible. Parce que quel que soit ce qu'on va décerner à Ferdinand Ayité, il ne sera pas heureux que d'être dans son pays. Il sera plus heureux que d'être avec sa famille et de continuer son boulot. Je pense que Ferdinand Ayité n'est pas un assassin. Il ne peut pas outrer le poste de quelqu'un. Si les plaignants peuvent ouvrir la clémence pour dire, bon, nous revoyons ceci, cela, Ferdinand Ayité, qu'il revienne avec ses collègues au pays pour continuer leur travail. C'est ça qui ferait même le bonheur de toute la corporation. Actuellement, je ne suis pas en train de voir un journaliste qui se sent heureux, parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, c'est Ferdinand Ayité, demain, c'est quelqu'un d'autre, le lendemain, c'est ABC. Donc, nous devons tous demander la clémence des plaignants pour qu'ils fassent quelque chose pour le retour de nos confrères.
Merci. La plus vive douleur que Ferdinand et Isidore devraient ressentir, c'est l'éloignement du pays, l'éloignement de leurs parents, l'éloignement de leur épouse et leurs enfants. Nous sommes avec nos femmes et nos enfants au jour le jour. Ce n'est pas facile. Oui. Imaginez un journaliste contraint à l'exil, à des milliers de kilomètres, ne pas voir sa femme et ses enfants. Et ça doit vraiment faire mal. Uriel parlait tantôt de clémence. Mais on peut se poser la question, sincèrement, pour cette émission que Ferdinand et Isidore ont animée sur la chaîne, leur chaîne alternative avec Joël Higa, est-ce que cela méritait vraiment que deux ministres portent plainte jusqu'à contraindre Isidore et Ferdinand à l'exil aujourd'hui? Joël, lui, il est mort, et même pendant qu'il était parti en exil, ils ont été jugés, condamnés à 3 ans de prison ferme. Est-ce qu'on devrait nécessairement en arriver là pour une émission, pour cette émission que Ferdinand et Isidore ont animé? Nous laissons cela sur la conscience de tous et de chacun. Didier Komiya Sogba, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour à mes aînés en studio. Désolé pour ce long retard.
Tous les jours. Qui se répète un peu trop, hein, Didier.
Tous les jours, Didier.
Ok. Oui, alors que nous sommes tes aînés, nous sommes là avant toi.
Ça se corrige, okay. Et ça va continuer à se corriger. Je voudrais également féliciter Ferdinand Ayité pour ce prix qu'il a eu. Moi, j'ai connu Ferdinand Ayité en 2010. J'ai découvert une personnalité assez humble, assez calme, mais bon, dont la plume était tellement, à l'époque, une plume star, on peut dire, et qu'on avait découvert quand il était dans une autre rédaction. On ne peut pas cacher les choses, c'est l'histoire de la presse togolaise aussi. Il était à Forum, il était à Forum de la semaine à l'époque, et à l'époque, Forum était à son apogée, et donc il y avait de très grands journalistes là-bas, dont Ferdinand Ayité, qui était rédacteur en chef et qu'on affectionnait, et donc je l'ai rencontré. J'ai découvert quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'humble. Quand il te parlait et pendant que nous on le louangeait, il était quelqu'un de posé, et naturellement comme Uriel le disait, dans la façon dont il a intervenu, il a interprété, enfin il a réagi sur le prix qui lui est décerné pour tout le travail qu'il a eu à faire. Et ce prix qu'il a reçu vient dans un contexte où il avait déjà donné une alerte autant pour moi, en début de semaine, il y a quelques jours avant, où il se plaignait de ce que vit actuellement sa famille, puisque tu parlais de la famille, de ce que vit actuellement sa famille restée au pays. Et il lançait donc un appel au ministre de la Sécurité de s'en charger. Je veux croire que on peut avoir un sursaut patriotique en tant que Togolais, puisque Quelqu'un a dit que partout où on parle de ce prix, on dit le Togolais. Donc, ce sursaut-là qui nous anime aujourd'hui peut amener les uns les autres à réfléchir et à voir dans quel contexte on permet à quelqu'un à qui on pourrait reprocher des choses ici, parce que nul n'est parfait, mais Ferdinand n'est pas parfait, mais Ferdinand a ramené un prix au Togo. Et donc, si on ne peut pas trouver un mécanisme qui permettait de faciliter le retour au pays à Ferdinand et à son rédacteur en chef. Puisque tu le disais, on a tous vu l'histoire de cette émission-là. Ils ont déjà fait des jours en prison. Ils ont été libérés parce qu'ils avaient présenté des excuses.
Et publiquement.
Publiquement. Et l'un des plaignants est passé à ces mêmes micros ici pour dire que puisqu'il avait présenté des excuses, l'affaire-là, c'est parti. Et demandait d'ailleurs à l'époque aux Togolais de prendre exemple sur Ferdinand Hité, de faire comme Ferdinand Hité. Peut-être qu'on peut faire une affiche dans la ville, mettre ça à faire comme Ferdinand Hité. Dans un sens comme dans l'autre, hein, dans le sens du prix comme dans le sens de demande de pardon. Mais patatras, cette affaire-là revient au goût du jour, on ne sait pas par quelle alchimie, et finalement, les confrères sont condamnés à 3 ans de prison ferme pour un journaliste. Je pense véritablement que les autorités doivent réfléchir par plusieurs pour trouver un mécanisme pour mettre fin à cette histoire qui n'honore pas le Togo, honnêtement.
Merci. Rappelons juste cette activité qui s'est déroulée. C'était un atelier de renforcement de capacité des managers de médias et de leaders d'organisations fêtières de la presse sur le management des médias. C'était les 20 et 21 juin 2023. Organisé par l'Observatoire togolais des médias, l'OTM, cette rencontre qui s'inscrivait dans le cadre du projet intitulé « Promouvoir la liberté d'expression et des médias et protéger les défenseurs des droits de l'homme ». Projet mis en œuvre par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, l'OTM et FAMEDEF sur une période de 3 ans, 2023-2025. Pour terminer sur cet article de liberté de ce jour intitulé « Partis politiques, organisations de la société civile, médias, tous neutralisés par Faure Gnassingbé à 2 ans de la présidentielle. Lequel Faure Gnassingbé, qui devrait être actuellement dans un grand hôtel de la place pour procéder à l'ouverture de cette rencontre pour la chasse au financement pour des projets d'avenir des infrastructures en Afrique. Togo Matin qui écrit « Forum Infra pour l'Afrique et Assemblée Générale des Actionnaires d'Africa 50 ». Les investisseurs se donnent rendez-vous à Lomé du 3 au 4 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Nouvelle Opinion nous rappelle également que les travaux de ces deux instances s'ouvrent ce jour à Lomé. Et Togo Presse également écrit que le Togo, en abritant ces instances, réaffirme son attractivité grâce à l'engagement du président Faure Gnassingbé. Jean-Baptiste, tu manifestais l'intérêt d'intervenir.
Oui, c'était par rapport au sujet que tu as évoqué concernant les organisations de presse.
L'article de liberté.
De liberté. Ce jour. Justement, c'est pour quand même faire un lien entre le rôle des organisations de presse et le sujet que nous avons abordé précédemment concernant notre confrère Ferdinand Hité, pour insister sur le fait que souvent dans notre pays, quand les confrères sont en difficulté, on ne sent pas réellement l'implication des organisations de presse dans la défense de ce confrère. Le cas de Ferdinand a été un cas très patent où on n'a pas senti vraiment l'implication des organisations de presse. Il y avait une mollesse qui a caractérisé.
Jean-Baptiste, ce n'est pas une discrétion. Je puis dire que les organisations n'étaient pas restées inactives dans cette affaire.
Si
vous faites un plaidoyer et que les gens ne vous accordent pas de réponse positive, vous faites comment?
Non, au fait, l'implication dont je parlais depuis quand Ferdinand était arrêté avec feu Joël Ega, on n'a pas senti réellement une mobilisation autour de ces arrestations. C'était ça. La situation était...
Passons maintenant.
C'est ça. Donc vraiment, il faudrait quand même que les organisations vraiment s'impliquent, parce qu'on ne doit pas quand même mettre l'intérêt particulier devant les situations difficiles dans lesquelles les confrères se trouvent.
Non, mais Jean-Baptiste, dans cette affaire-là, moi, je connais des gens, des présidents d'organisations de presse, qui ont été même jusqu'à la prison chez les Ferdinand.
Non, non.
Qui ont été dans tous les...
Non, évitons...
C'était un sujet très compliqué.
Évitons des polémiques.
Non, ne revenons pas
dessus. Je peux te dire encore que dans cette affaire, je connais des organisations... Je ne veux pas les nommer. Les gens avaient travaillé d'arrache-pied, de nuit comme de jour. Non. Des journalistes individuellement de bonne volonté. Mais nous plaidons et qu'on ne nous écoute pas, n'allons pas étaler, n'allons pas faire un procès d'intention aux organisations de presse ici. L'essentiel, c'est que nous restons fraternellement unis, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne créons pas de problème, là, il n'y en a pas.
Tout à fait.
Revenons à l'actualité, s'il te plaît. Eh bien, je disais donc, ces rencontres qui s'ouvrent aujourd'hui à Lomé, il s'agit, comme le rappelle Togo Matin par exemple, il s'agit du forum infra pour l'Afrique et suivi de l'Assemblée des actionnaires Africa 50, des investisseurs qui se donnent rendez-vous chez nous ici à Lomé. Harim Yaou, c'est des rencontres qui vont permettre aux pays africains de rechercher des financements pour des infrastructures, des projets d'avenir au Togo et un peu partout en Afrique.
Non, avant tout, je voudrais dire que Faure Gnassingbé, c'est un grand manager. Vous avez pu constater que depuis que Faure a été élu et qu'il est à la tête de notre pays, il y a de ces grandes rencontres qui s'invitent et qui se donnent rendez-vous à Lomé. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une première. Et notre souhait, c'est que, au-delà, c'est vrai, les investisseurs qui s'intéressent à l'Afrique se sont donné rendez-vous au Togo. Et nous sommes en train, ici, de décortiquer, de débattre autour de la question. Mais au fond, ce qui nous intéresserait, c'est qu'au sortir de cette grande rencontre, que le Togo puisse se faire appuyer en beaucoup. Que les gens puissent, comme on dit, que le Togo démontre davantage, selon Togo Presse, son attractivité. Il faut que non seulement les gens soient attirés ou intéressés par le Togo, mais qu'ils viennent effectivement faire ce qu'ils savent faire, donner l'accompagnement digne de nom qu'il faut. Mais je voudrais dire au-delà, vous voyez que depuis 2 ou 3 ans, l'Afrique est en train de se donner un éveil. Et vous voyez beaucoup de jeunes Africains, des internautes qui sortent et qui affirment la souveraineté de l'Afrique à tout égard. Et moi, mon inquiétude, c'est qu'au même moment où l'Afrique se dit digne de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir mener tel ou tel combat, je parle d'une façon globale, je ne parle pas du Togo, mais je dis que voilà cette Afrique qui est intéressée et qui veut toujours que les gens viennent lui donner des appuis, que les gens viennent l'accompagner. Et en le disant, je me dis, bon, pour le moment, nous sommes en train de suivre un processus de nous affirmer demain et qu'il faut que ce qui se fait à Lomé aujourd'hui, effectivement, puisse apporter des retombées pour le Togo, et c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui intéresse toute la population, et togolaise, et africaine, et à toutes ces éminences qui sont là aujourd'hui en train de tenir le sommet.
Didier Assogba se retrouve chez nous ici au Togo, je crois, 35 pays africains, il y a la Banque africaine de développement qui est également là, il y a également l'Organisation mondiale du commerce, ça veut dire la portée de cette rencontre, espérons seulement que les fruits seront que les fruits porteront la promesse des fleurs et que le Togo ou d'autres pays africains arriveront à décrocher des financements vraiment conséquents pour de grandes infrastructures.
Je pense fondamentalement que c'est la finalité qui compte et combien de fois de telles rencontres n'ont pas été organisées, que ce soit à Lomé, à Kigali, un peu partout sur le continent, il y a souvent eu ce genre de rencontres. Mais moi, perso, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément ces rencontres le problème, mais certaines fois, les Africains ne sont pas écoutés ou les pays africains ne sont pas écoutés. Mm-hmm. Et lorsque les financements à accorder aux pays africains, les conditions qu'on pose et certaines conditions sont rejetées par les pays africains, les Occidentaux se plaisent à ne pas décaisser ces financements. On sait que dans plusieurs organisations et plusieurs ces rencontres, il y a eu des promesses de financement, tant pour gérer les problèmes sécuritaires, pour aider les entreprises, pour aider les pays à avoir des infrastructures à se développer. Mais lorsque les promesses sont faites et que l'heure de l'accomplissement arrive, on pousse d'autres conditions qui font que généralement ces financements ne sont pas donnés. Mais je veux croire que la rencontre de Lomé sera également l'occasion pour nous Africains de mettre des garde-fous autour de ces promesses et de dire nous voulons des financements mais dans telle condition, et de dire parce que nous sommes ceux qui prennent, et si nous ne sommes pas là des preneurs de financement, ces organisations aussi n'auront pas de vie, ne continueront pas à vivre. C'est parce que nous prêtons, nous payons avec intérêt qu'elles continuent de vivre. Et donc, il faut que nous aussi, nous soyons un peu plus pragmatiques en disant clairement des choses que nous voulons et dans quelles conditions nous les voulons. Et si nous voulons laisser seulement ces bailleurs poser les conditions, nous serons éternellement dans ces conditions-là, on se rendra compte dans 2 ans, dans 3 ans après, que non seulement nous n'avons pas eu les financements, mais le peu qu'on veut nous donner, on veut nous imposer des conditions qui ne nous conviennent pas. Et donc, que les discussions de Lomé, et je sais que généralement les travaux à Lomé permettent d'aboutir à de grandes conclusions, mais que ces grandes conclusions-là soient des conclusions à l'avantage des pays africains, et que véritablement des conditions également soient prises pour le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations, parce que les tests, on s'est allumé un peu partout, les tests sur le continent sont souvent de très bons tests, de bonnes recommandations, mais généralement c'est la mise en œuvre qui pêche un peu.
Merci. La cérémonie d'ouverture est à suivre en direct, hein, par la technologie, ceux qui ont les appareils appropriés et la connexion adéquate, vous pouvez suivre la cérémonie. Espérons d'ici demain que les actes de ces assises nous confirmeront l'optimisme, la confiance de ceux qui veulent y croire. Uriel.
Pour moi, le problème ne réside pas au niveau du lobbying pour obtenir le financement. Le cadre est créé dans presque tous les pays africains. Les partenaires financiers ont confiance et ils connaissent bien les ressources, aussi bien naturelles, les ressources qui sont là et qui permettront de rembourser les prêts, les dettes. Et les partenaires le savent très bien. Notre problème n'est pas un problème de lobbying pour obtenir le financement. Les financements, ils sont là et les bailleurs attendent même que nous demandions pour qu'ils nous les apportent. Ça, c'est clair. Ce qui se fait aujourd'hui, peut-être, c'est formellement pour dire que tout le monde en a besoin. Mais lorsque le financement arrive, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le souci. Vous savez, vous prenez la Banque africaine de développement, par exemple, qui vous finance pour construire une route. Qu'est-ce que vous en faites? Ailleurs, le pays demande même à la Banque africaine de développement d'être en elle-même le bureau de contrôle de ses travaux. Et c'est ce qui fait que ça marche. Mais ici, quand vous prenez ces financements-là, qu'est-ce que vous en faites? Vous-même, vous l'exploitez comme vous voulez, vous cooptez les entrepreneurs comme vous voulez. Alors, vous financez, vous leur donnez de l'avance comme vous voulez et ils finissent les travaux. Une route censée faire, par exemple, 20 ans, 25, 30 ans, 2 ans après, elle est affaissée.
S'ils finissent les travaux.
Ça aussi. Voilà, le problème, je vous assure, n'est pas le lobbying pour obtenir les financements. Même les entrepreneurs privés togolais sont capables de financer des projets de l'État ici. Donc, le problème réside au niveau de l'utilisation des fonds qu'on vous prête. Mm-hmm. Non, il ne faut pas qu'on se cache. Le Togo a des ressources qui donnent, qui rassurent les partenaires pour nous octroyer de l'argent. Le Togo a assez de ressources. Je prends l'exemple du Togo parce que je ne veux pas rentrer dans les autres pays pour voir comment ils le font. Mais ailleurs, quand vous prêtez de l'argent, par exemple, pour des travaux d'envergure, vous faites à telle enseigne que le partenaire financier soit même lui-même le bureau de contrôle. Non seulement il a besoin de la qualité de la chose, mais il a besoin que son argent soit vite remboursé. Je vous dis une chose, quand vous prenez la CT, lorsqu'on monte le projet pour l'extension du courant électrique, on dit par exemple le Togo a besoin de 500 000 poteaux électriques. Lorsque le partenaire vous envoie de l'argent pour les 500 000 poteaux électriques, le partenaire n'a plus besoin du suivi. Lui, il a déjà envoyé l'argent. Les poteaux, là, la façon dont c'était distribué dans le projet, on dit par exemple, 5 poteaux iront vers la maison de SAS, 5 poteaux iront dans telle ferme. Lorsque le partenaire envoie de l'argent, il ne fait plus le suivi. Ce qui fait que ces poteaux-là vont ailleurs. Le partenaire attend juste l'argent, ce qui n'est pas bien. Donc, merci. Il faut vraiment utiliser ce qu'on
vous prête comme de l'argent. Jean-Baptiste Uriel pose la question de façon très intéressante, sous deux angles. D'abord, la consommation des crédits. il y a des crédits que Faure Gnassingbé et tout le gouvernement ont décroché, mais ces crédits qui ont dû être rapatriés parce que le Togo n'a pas pu consommer, ça c'est d'un. De deux, ce que nous consommons, est-ce que c'est de façon judicieuse? Est-ce que l'argent est vraiment utilisé au projet pour lequel nous nous sommes engagés?
Oui, justement, le problème et la question reste posée parce que si on remonte un peu l'histoire, je crois que ce n'est pas ici au Togo, mais Faure Gnassingbé était en 2014, je crois, au Liban ou dans un pays asiatique, et a décroché un financement pour la construction d'une voie ferrée Lomé-Sinkassé. Mais jusqu'alors, nous sommes en 2023, on n'a pas vu le début de ces travaux qui vont relier par voie ferrée Lomé-Sinkassé. La question reste toujours là.
C'était la rejet des financements, mais est-ce que ces financements ont été effectivement décrochés?
C'est une question aussi qu'on doit se poser. Mais aujourd'hui, c'est notre capitale qui accueille un sommet et on est légitimement en droit de nous poser la question de savoir si réellement nous aurons à décrocher des financements et que ces financements doivent aussi, on parle de lobbying, de négociation, il faudrait que ces financements soient accordés d'abord à taux concessionnel parce que, vous savez, si on doit construire des infrastructures, c'est de grosses sommes. Mm-hmm. Et donc, si ces sommes sont assorties d'intérêts que nous ne pouvons pas payer, là aussi, ça nous alourdit les peines, les difficultés pour la population parce que, après tout, quand ces crédits-là sont accordés au pays, il va falloir rembourser
grève généralement notre économie, notre degré d'endettement.
Donc, c'est pour dire simplement que, d'un, on négocie pour avoir ces financements, mais le nœud du problème aujourd'hui, c'est que, les confrères l'ont dit, les travaux sont exécutés, mais il n'y a pas un réel suivi pour ces travaux. Et généralement, les infrastructures qui sont censées durer peut-être 20 ans, 25 ans, peut-être 2 ans après, ou bien les travaux ne finissent même pas et on commence par avoir des nids de poules, oui, dans les infrastructures routières qui sont en train d'être construites. Donc, c'est une question fondamentale qu'on doit se poser. Si on fait appel aux investisseurs pour venir au Togo, alors, s'ils viennent, alors, quelles seront les conditionnalités, surtout aussi si ce n'est pas dans le domaine des infrastructures, si c'est dans d'autres domaines de l'économie, il faudrait aussi voir à ce
donc,
que...
En somme, le lobbying, c'est bien, mais rechercher les taux qui favorisent, qui nous avantagent...
Pour notre développement.
Pour le développement. Et de deux, arriver à consommer effectivement les crédits et éviter à ce qu'il y ait des détournements de ressources pour créer des éléphants blanc ici et là. C'est des exhortations que nous nous permettons d'exprimer. Oui, Didier?
Oui, après, je pense que nos dirigeants doivent se comporter très souvent. C'est bien déjà qu'ils aillent chercher les ressources, mais je pense qu'ils doivent se comporter en bon père de famille. Si vous êtes un père de famille, vous êtes à court de moyens et que vous allez dans l'autre concession pour aller en emprunter, c'est parce que vous vous assurez des garanties de bonne utilisation pour pouvoir rembourser après. Mais on a certainement le débat que posent les confrères, c'est un débat très intéressant parce que ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, c'est plusieurs fois qu'on a ce problème-là dans nos différents pays, au Togo et ailleurs, que des ressources sont allouées pour des travaux et ne sont pas véritablement mises dans l'exécution de ces travaux-là. Et après, les accusations de détournement et même quelquefois des rapports mettent en cause un certain nombre de personnalités ou un certain nombre de personnes chargées de la mise en œuvre des projets et donc de l'utilisation de ces ressources-là. Il est d'abord nécessaire, parce que nous allons chercher ces ressources-là, il faut d'ailleurs en interne trouver des mécanismes qui permettent de mieux contrôler l'usage de ces ressources et pour également qu'il y ait des mécanismes de reddition de comptes pour que des gens ne prennent pas allègrement le denier public pour aller assouvir leurs besoins et que l'État ou le contribuable continue de payer la dette et le service de la dette, comme on dit généralement. Et donc, je pense que chez nous, ici, c'est encore l'intérêt ici aujourd'hui de muscler un peu plus un certain nombre d'organes, d'institutions de l'État, comme la APULSIA, comme la Cour des comptes, ou comme l'Inspection générale des finances, des institutions qui doivent être la police derrière ceux qui exécutent des projets et qui prennent ces argent, l'argent-là pour l'exécution de ces projets, pour qu'ils rendent compte et qu'on veille également qu'aucun centime, comme quelqu'un l'aurait dit dans ce pays, aucun centime ne soit gardé par de vertes.
Merci. Non. Oui, Harry Miaou.
Non, moi je voudrais dire que pour des rencontres comme celle qui se tient à Lomé aujourd'hui, les bailleurs ne se déplacent pas dans n'importe quel pays. Vous savez, il y a plusieurs pays africains qui auraient souhaité abriter le sommet qui se déroule aujourd'hui dans notre capitale. Mais c'est pour dire que si les bailleurs ont accepté de venir au Togo, peut-être qu'ils ont jugé, ils ont fait un jugement, le lobby a été bien fait par le chef de l'État, peut-être le gouvernement, et ils ont accepté de venir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le Togo, qui accueille le sommet-là, puisse être privilégié. Parce que quand vous voulez parler de la reddition des comptes, il faut que vous arriviez à avoir le prêt. Une chose est que les gens viennent discuter autour d'une table et qu'à la fin, vous-même, qu'on n'accepte pas, vous passer de l'argent. Vous savez, Kapala peut venir à moi ou je peux aller à Kapala pour demander un prêt. Il me le refuse, mais ça se peut aller, il le lui accepte. Donc, il faut que le Togo s'en sorte gagnant des suites de cette rencontre-là. Parce que ce ne serait pas intéressant que nous abritions un tel sommet et qu'à la fin, qu'on ne soit pas quand même privilégié.
Nous verrons les résultats.
Oui, voilà, c'est ça qui m'intéresse.
Mais avant de continuer, nous avons annoncé, enfin, le programme a annoncé que la cérémonie de ce matin devait être présidée par le président de la République. Or, cela crée un problème monstre en ville. Vous savez, le chef de l'État, depuis le mai de haut, bien là, c'était l'OUA, à ce qu'il rallie l'hôtel de février. Donc, la route a été bloquée. Et nous avons des messages, des appels, des gens qui sont bloqués depuis de longues minutes, sinon depuis des heures, hein, attendant que la voie puisse être libérée. Ça aussi, il faudrait le regarder. Il faudra regarder ça de près, à ce que le passage du chef de l'État ne soit pas une occasion de bloquer une partie de l'économie de notre pays.
Oui, voilà, c'est, on bloque c'est tout toute ça, la route. Ça a été d'ailleurs un des soucis que moi j'ai eu en venant. Donc on bloque toute la route. Et je pense
mais
que
même
la
sécurité.
Non, pas pour justifier. Non, même l'un de là. Mais je pense que la sécurité présidentielle, le chef de l'État, nous l'aimons. Je crois que tous les Togolais l'aiment d'ailleurs. En témoignent les foules qui se déplacent lorsqu'il il sort. Je pense qu'on peut trouver un mécanisme où on laisse une partie de la route pour que l'économie continue et que le chef de l'État et son cortège.
Jamais. Si, ça, c'est un plaidoyer. Voilà, revenons donc à nos débats.
Jamais.
Nous parlons des rencontres de Lomé.
Même aux États-Unis, on bloque la route.
Les rencontres de Lomé, c'est pour rechercher des financements pour des projets, des infrastructures. Justement, il y a un projet, une infrastructure. Qui défrait la chronique dont nous parlons depuis plusieurs années. C'est ce qui a commencé comme l'hôpital Saint-Pérégrin et qui est devenu hôpital Docteur Lafayette. Aujourd'hui, deux journaux s'y intéressent. Nouvelle Opinion, d'abord, qui voit dans l'hôpital Docteur Lafayette la marque de la qualité. Et de l'autre côté, La Lanterne, c'est le journal La Lanterne qui se demande si l'hôpital Docteur Lafayette est pour des nantis ou des preuves. Bon, nous avons l'avantage d'avoir le directeur de Nouvelle Opinion aussi avec nous. En quoi est-ce que cet hôpital Docteur Lafayette est véritablement la marque de la qualité telle que ton journal l'écrit, Harry Miaou?
Oui, parce que avant de passer à une telle affirmation, il faut y aller, il faut aller toucher du doigt cette réalité.
Et tu y es allé?
J'y suis allé. Et c'est à ce studio que nous tous, on avait déjà, entre-temps d'abord, quand la première pierre a été posée, nous tous, on avait dit, bon, wait and see. Il y avait même certains à ce plateau, si j'ai souvenance, qui avaient dit qu'ils sont des Saint Thomas, qu'ils attendaient de voir. Et patata, la construction a démarré, puis a débordé, suivant les attentes du cahier des charges,
pour les délais,
quoi. On a débordé, et pendant ce temps, chacun disait ce qu'il pensait à propos. Et finalement, la semaine dernière, j'ai eu la chance d'aller à Docteur Lafayette pour faire un petit tour. J'ai vu la qualité du bâtiment, j'ai vu du matériel que j'avais jamais vu au Togo. On m'a donné des explications et j'apprends. Et j'ai vu également qu'il y a même des robots intelligents qui aident à travailler là-bas avec des machines jamais vues qui font pratiquement beaucoup de choses.
Ça, c'est l'équipement.
L'équipement. Et je me suis plaît à voir qu'est-ce qui se passe par rapport à la main-d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe à ceux qui travaillent, parce que très souvent, nous de la presse, on se plaint ici à dire que nous avons au Togo des gens qui regorgent de beaucoup de qualités. Le Togo a des cadres, le Togo a des gens qui se connaissent dans beaucoup de domaines. Je cherchais à voir si on n'a pas été nous importer pratiquement tous les grands cadres de cet hôpital. Et je découvre avec beaucoup de satisfaction qu'il s'agit des Togolais. Les médecins qui sont là, c'est vrai qu'on est allé les chercher certains de l'extérieur, mais qui ont des qualités avérées hors de nos frontières qu'on a amenées pour servir nos communautés, pour nous servir. J'ai essayé de voir comment est-ce que les prix, est-ce que moi, si je suis malade, je peux y aller. Je crois qu'avec la qualité et tout ce qui a été mis là-bas, on ne peut pas, à ses débuts, commencer par faire du social. Ou quelqu'un a mal à la tête, il court, il vient, il dit, bon, je suis malade, donc on lui donne des produits, on lui fait tout. Mais c'est un hôpital, quoi que nous disons, il faut que chacun de nous essaye d'y aller, de vivre ce que moi j'ai vécu. C'est vrai que les Togolais peuvent, parce que c'est abordable. Hein. Suivant ce que ça peut donner comme soin, c'est abordable pour le citoyen lambda. Sauf que je ne peux dire qu'on puisse faire au début du social, parce que si on doit y être à faire des consultations à 1000 francs, à 2000, ça ne va pas pouvoir, peut-être, puisque c'est un investissement très lourd de sens de ce que moi je suis allé voir. Donc, c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui après les doutes que chacun de nous avait émis. Et je félicite et encourage tous ceux qui se sont mis pour rendre ce joyau-là qui est devenu réalité, suivant les rêves et les désirs du gouvernement et du chef de l'État.
Merci. Je rappelle que l'attente a été longue, mais finalement, l'hôpital a été construit. Moi, je ne suis pas encore allé, mais quand j'ai rencontré les architectes, ceux qui ont travaillé sur le chantier, aussi bien les architectes que le corps médical, on nous assure que c'est des bâtiments d'une certaine taille, avec des équipements à la pointe de la technologie. On parle même de l'intelligence artificielle qui est en œuvre dans cet hôpital. Comme le disait tantôt Harry Miaou, c'est la plupart du personnel, c'est de jeunes cadres togolais formés ici ou à l'extérieur qui travaillent, et que les prix ont été basés sur les barèmes fournis par l'Ordre des médecins du Togo. Et surtout, quand on remonte à l'origine, c'est la conjonction du rêve du président de la République qui souhaitait doter notre pays d'un hôpital de référence pour faire l'économie, de ne plus être obligé d'évacuer les Togolais à l'extérieur pour des coûts très onéreux. Et puis ce rêve présidentiel a rencontré la Caisse nationale de sécurité sociale qui a un certain fonds que la Caisse a investi, d'où le fruit donc de cet hôpital, Uriel Enyang.
Bon, vous savez, nous ne pouvons pas tous aller l'un après l'autre pour visiter cet hôpital. Je pense qu'il revient plutôt aux responsables de cette structure, si c'est possible d'organiser une journée porte ouverte pour nous présenter la structure, les prestations. Ça serait plus commode. Mm-hmm. Mais aller l'un après l'autre, je pense que ça va les fatiguer, ça va perturber aussi.
Là, c'est un message que la direction commerciale ou bien la direction même de l'hôpital Docteur Lavier doit saisir pour se rendre vraiment visible au sein de l'opinion, naturellement, commençant par la presse.
Tout à fait.
La charité bien ordonnée
commence par soi-même, pas autrui. Donc, le deuxième aspect, la deuxième dimension, c'est qu'il faut saluer celui qui a identifié l'endroit. Moi, je remercie vraiment le choix de l'endroit là qui était presque impossible à mettre en valeur. Mais aujourd'hui, grâce au génie des ingénieurs, la zone là a été mise en valeur. Personne n'avait cru. C'était une zone à tout problème.
Inondable.
Inondable. Mm-hmm. Inondable. Donc aujourd'hui, cet endroit sert à quelque chose. Maintenant, sur les prestations, nous n'allons pas douter sur le génie de nos médecins qui sont là-bas. Sauf que, quoi que nous soyons en train de dire, et à l'heure actuelle, c'est un hôpital privé. C'est un hôpital privé qui ne peut pas offrir les mêmes coûts que là où nous allons, c'est chez Tocoin, soit chez Lomé Commune, etc. Même s'ils ont financé, investi, et bon, nous osons croire qu'un jour viendra où l'État mettra la main à la poche pour apporter des subventions, puisqu'on parle de l'hôpital de référence. Un hôpital de référence, c'est aussi bien pour les nantis que pour les pauvres. Si un pauvre meurt à côté alors qu'il y a l'hôpital de référence parce qu'il n'a pas les moyens, je suis certain que la plus haute autorité ne serait pas contente. Donc, faire à telle enseigne que même le plus pauvre, le Togolais le plus pauvre, en puisse être sauvé s'il se trouve dans la situation. C'est un hôpital de référence, certes, mais ailleurs, il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes qui permettent de soigner toute la population. Donc, notre santé, c'est la première des choses. Et moi, j'étais là lors de la pose de la première pierre. Bon, ça a pris un peu de temps, mais finalement, l'hôpital, il est là. Les objectifs étaient déclinés. Ça dit que tout était basé sur le social et l'aide de la population à la base. Bon, ça prend une autre dimension. Ce que nous pouvons demander à l'autorité, c'est de mettre la main à la poche pour que tous les Togolais puissent s'y rendre. Comment nous voyons
les revient souvent voitures. Sur le statut de l'hôpital, mais c'est parti avec l'idée de la Caisse nationale de sécurité sociale, mais avec le temps, aujourd'hui, disons que Dr Lafia fonctionne comme un hôpital privé. Comme l'a dit Uriel, est-ce que l'État pourra regarder pour que tous les Togolais souffrant de pathologies chroniques puissent y avoir accès? That is the question. Jean-Baptiste.
Et c'est justement l'interpellation qu'on doit faire à l'endroit du gouvernement, parce que quand Tchagnao parlait tantôt, il disait qu'il est parti faire un tour là-bas et il a vu les infrastructures, l'équipement, et il voudrait parler des prix, mais bon, surtout des consultations et les diverses prestations qui ont cours là-bas. Il n'a pas donné réellement les prix, mais je crois que le problème...
Non, les prix circulent. Hein.
C'est au standard.
Les prix circulent sur les réseaux un peu partout. Et de source sûre, les prix de Dr Lafia ont été basés sur les barèmes fournis par l'Ordre des médecins du Togo. C'est vrai que le Togolais moyen peut toujours trouver ça cher. C'est pour dire que ce n'est pas des prix inventés comme ça.
Mais pas inventés, mais je crois que, bon, moi j'ai eu une information selon laquelle la consultation est fixée à 75 000.
Laquelle consultation? Il y a plusieurs types de consultations.
Bien, en tout cas, on va aller aux nouvelles, mais ce que moi j'ai appris, c'est ça. Consultation.
Prénatale.
Non,
s'il vous plaît. Nous avons convenu d'avancer au club de la presse des informations dont nous sommes sûrs.
C'est ça. Donc,
s'il y a doute, on s'abstient le temps d'aller.
Comme les hôpitaux publics le font, il y a un barème que les hôpitaux publics, CHU, Sylvanus, Olympio et les autres, appliquent un taux. Mais je crois qu'au niveau de cet hôpital, bon, on nous dit que c'est 115 000, mais on va vérifier.
Non, encore une fois, tu parles de quelle prestation est facturée à 115 000?
Quand vous allez au CHU, je crois
que c'est différent. Quelle prestation est facturée à ce prix? Je voudrais que nous disions des choses pour ne pas semer du doute dans l'esprit de ceux qui
nous écoutent. Puisque moi j'y ai été, je vais expliquer un peu quelque chose. Ce que moi j'ai vu, quand vous allez, on vous consulte, ça rentre dans le système. Et les médecins concernés par votre pathologie, ils ont ça, sans que vous vous déplacez, sans que vous ayez des papiers, on vous programme et ils vous reçoivent. Et les produits sont là sur place pour vous soigner, parce qu'on ne peut pas faire des choses...
Selon la pathologie.
Oui, selon la pathologie. Donc, ce n'est pas à vous tenir les papiers.
Ce qu'on va faire, on va souhaiter, comme Uriel a dit, c'est que l'hôpital s'ouvre.
Justement au Togolais lambda, parce que imaginez,
ils ont besoin de visibilité, il faut qu'on sache ce qu'ils sont, ce qu'ils offrent, et puis le débat va continuer. Il est 11h54, je choisis de priver Didier de cette question et nous allons au chapitre suivant. Ce phénomène de société avec les jeux de hasard ou les jeux de la chance qui ont vraiment le vent en poupe. Revue de presse avec une nouvelle opinion qui parle du grand jeu capsule consommateur de la Société nationale des boissons avec des heureux gagnants récompensés chaque semaine. Tu paies ta bouteille de diamant, l'Adia, c'est ça? Tu des capsules, tu regardes dans la capsule, si Dieu est avec toi ou la chance avec toi, tu peux gagner. Ça, c'est la SNB. Nous continuons avec la lanterne qui parle de grandes innovations de la Lonato. La Lonato qui passe à l'étape supérieure. Mega Info écrit que la maison de la chance, c'est-à-dire la Lonato, offre plus d'opportunités aux parieurs. Le Libéral parle de l'augmentation du nombre de tirages. Hein? Avec de nouveaux types de paris, avec des paiements rapides des gains. Tu gagnes, on te paie en même temps. Togo Matin écrit, la Lonato innove avec deux tirages par jour et une mise minimale de 100 francs. Oui. Donc on peut jouer la Lonato même avec 100 francs et deux tirages par jour. Nouvelle opinion continue, de nouvelles orientations au profit des clients et liberté. Nous, le nombre de tirages passe de 4 à 12 par semaine. Didier,
la presse est unanime.
La publicité pour la société de produits de consommation. Et puis la Lonato, qui s'offre jusqu'à la mise de 100 francs, 2 tirages par jour, 12 tirages par semaine. Didier.
Ben, que dire, c'est la Lonato est en train de faire son travail. Je crois que c'est pour cela qu'elle a été créée. On a appris que c'est une société à 100% société d'État. Donc, si l'État togolais a décidé de créer une société de loterie, c'est parce que peut-être l'État pense que ça apporte quelque chose aux citoyens. Et en plus, certainement, des gens qui jouent à la Lonato, certains qui jouent à la loterie gagnent. Si des gens continuent de jouer, c'est parce que certains gagnent certaines fois. Et donc, la Lonato, comme toute bonne société qui se respecte, a décidé de multiplier multiplier les chances pour elle, multiplier les chances également pour ses clients qui jouent. Et je crois que c'est le sens de tout ce que nous lisons dans la presse aujourd'hui avec tous les confrères qui ont été pratiquement unanimes sur cette ça. Je pense que le reportage porte sur la réforme ou l'évolution, la modernisation qui est intervenue là-bas au niveau de la Lonato et qui a fait que la Lonato a acquis de nouvelles machines et de nouveaux équipements qui permettent généralement, qui lui permettent en fait de dérouler une nouvelle forme d'activité pour avantager ses clients, ceux qui jouent. Oui. Et donc je pense que la Lonato va s'aligner sur ce qui se fait au standard dans la sous-région et à l'international, même à Paris, partout dans les grands pays, vous avez toujours de l'autorité nationale. Et donc le Togo également a une loterie nationale qui vient de dérouler une réforme qui permet de faire gagner un peu une partie des citoyens, mais aussi de continuer à faire rentrer des ressources. C'est normal.
C'est normal. Bon, sauf que déjà quand vous circulez en ville, un peu partout, il y a des foules devant les guichets de tels jeux de hasard, de tels jeux de chance. Ça, c'est bien. Sauf que il est démontré que ces jeux de hasard peuvent fonctionner comme de la drogue et créer un phénomène d'addiction. Les gens, du matin au soir, ils ne font que jouer au lieu d'aller travailler.
J'étais là. Oui. J'étais là. J'étais là à cette conférence où le directeur général de la Lonato, M. Georges Barcola, il en a fait cas.
Ah, lui-même
Oui. Parce qu'un mécanisme a été mis en place pour mettre fin au phénomène de l'addiction. C'est-à-dire qu'il y a des gens du matin jusqu'au soir, ils sont là à jouer alors que la famille n'a rien à manger.
Oui.
Non, ils ont pris des dispositions. Mais
comme il y a deux tirages par jour, on joue la matinée, on joue l'après-midi.
C'est ça. Oui.
Non, alors qu'il n'est pas avéré qu'on gagne toujours.
Absolument. Non, c'est que nous sommes en train de dire.
Oui.
Est-ce qu'on oblige quelqu'un à se lever pour prendre ses 100 francs, ses 200, ses 300 pour aller jouer? Non, ce n'est pas obligé. Mais quand vous jouez alors que votre famille n'a rien à manger et que la famille se plaint, là, le Lonato prend les dispositions pour vous interdire de jouer. Vous pouvez avoir des millions. Si vous n'utilisez pas votre famille, vous n'allez pas jouer. Mes enfants aussi sont impliqués.
Oui, surtout veiller à ce que les enfants mineurs ne soient pas autorisés à tout jouer.
Tout à fait.
Alors, rapidement, l'Assemblée nationale qui a terminé sa première session ordinaire de l'année, c'était le 30 juin dernier, Togo Matin, nous en fait le bilan législatif au goût du progrès. Le libéral nous apprend que c'est 12 projets de loi qui ont été adoptés durant les 4 mois de la session. À présent, les députés sont en vacances parlementaires pour 2 mois. L'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année, c'est le premier mardi du mois de septembre. Sauf que pour urgence, les députés peuvent toujours être convoqués en session extraordinaire. Il nous reste, on va faire un rapide tour de table. Vous avez la liberté d'évoquer un article, un sujet qui vous tient à cœur. Alors, une minute, juste un effort de synthèse. Jean-Baptiste,
concernant le...
Non.
Un article venant de notre corps diplomatique News. Je crois qu'il y a cette tournée que le bureau de transition du CAR, Comité d'action pour le renouveau, a entamé dans la préfecture de Vaud.
Oui.
Après avoir fait la même chose dans le Yoto, la semaine dernière, ils ont circulé dans plusieurs localités. Ils ont parcouru plusieurs localités de la préfecture de Yoto, et hier ils ont entamé la tournée dans la préfecture de Vaud, en commençant par Raoté.
Chez moi,
Raoté.
C'est bizarre, j'ai passé tout le week-end à Raoté, mais on n'a pas pu se croiser.
C'est hier dimanche.
C'est que Raoté devient gras aussi.
Absolument, donc ils ont commencé par Raoté en s'étendant vers...
Donc c'est le bureau de transition.
Le bureau de transition dirigé par Nador Raoukou, Jean Kissier
et les autres. Et de l'autre côté, le bureau investi par le Congrès, présidé par Yao Robert Daté. Harim Yaou, ok, Uriel.
Non, vous savez, on a parlé des infrastructures ici. Je voulais juste attirer l'attention du maire de la commune Agonivé 2 sur un phénomène que lui-même il maîtrise très bien. J'ai vu, c'est écrit sur un mur de l'église de la paroisse de Madikweto, et a cassé une rue de 10 mètres. Mais pendant ce temps, les gens sont en train de couler des dalles sur les routes là-bas. Lui-même, on l'avait invité pour constater. Il a constaté, il est parti, c'est fini. Il va revenir quand les gens sont en train de couler les dalles sur les routes.
Tu sais, Uriel, quelqu'un qui m'a dit un jour que le domaine de l'État s'est scellé dans la pierre. Aujourd'hui ou demain, si tu occupes le domaine de l'État, tu dégageras. Peut-être que tu as un frère. Peut-être que tu as un ami qui te couvre, mais tant que c'est le domaine de l'État, tôt ou tard, on dégagera. Et la sagesse nous enseigne à dégager plutôt tôt que tard. Il est midi, parce que 3 minutes, nous marquons une pause. Et après, les auditeurs pourront entrer en ligne sur les deux numéros, le 22, 21, 33, 74 ou le 91, 36, 63, 75.
93.5.
Eh bien, c'est parti. Nous nous branchons sur vous. Les deux numéros, le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75. C'est parti avec un premier auditeur déjà en ligne. Pas encore? Ok. Il faut en parler qu'il arrive. Bonjour l'ami. Allô, bonjour.
Bonjour Sas.
Oui.
Comment vous allez?
Ah, nous rendons grâce à Dieu.
Ok, c'est l'évangéliste Senghor, hein?
Oui, nous avons compris.
Voilà.
Le timbre de votre voix ne change plateau, pas. Hein? Pardon?
Ouais, je dis, je salue le plateau.
C'est gentil.
Voilà. Bon, je voudrais vraiment intervenir sur deux sujets là. Bon, tout à l'heure, il y a un de vos confrères qui parlait de la grande rencontre à Lomé, au Togo plutôt.
Oui.
Il disait que Faure Gnassingbé, c'est un grand manager. Bon, moi, je vais le compliment en disant que c'est vrai. Quand on dit un manager, c'est tout comme un leader. Bon, lui-même, il avait dit qu'un leader ne parle pas beaucoup, c'est vrai. En tant qu'un bon père, c'est vrai, on ne parle pas beaucoup, mais un vrai manager doit contrôler. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé quand même de la gestion, le contrôle des choses là. D'ailleurs, même, je voudrais vraiment poser la question de savoir, toutes ces rencontres-là, ça donne quoi au Togo? Ça avance le pays? Non! Même les prêts qu'on fait, tout ça là, monsieur Sass, mais nous ne sommes pas sans savoir que tous ces prêts-là, des fois, sont détournés. Et ça ne donne absolument rien. Il y avait des conférences maritimes, la sécurité sur maritime, quoi, tout ça là, ça donnait quoi? C'est ça le problème. Donc, vraiment, je voudrais quand même dire que quand il s'agit d'un manager, un leader, il doit contrôler, il doit quand même assurer aux besoins de sa population. Deuxième sujet au niveau de la Lorato. Mais est-ce que vous voyez dans un pays où tout à l'heure vous disiez qu'on fait des tirages, des tambola, tout, et pendant la journée, deux fois, tout ça là? Mais voilà maintenant qu'on a pris 7 milliards pour construire le siège de la Lorato qui commence à se fondre. Les 7 milliards, mais c'est ça. Allô?
Oui, oui.
Les 7 milliards, ce n'est pas une petite somme. Ceux qui l'ont conçu, celui-là qu'on a remis, l'homme de BTP qu'on a remis ça, aujourd'hui, il n'y a pas une interpellation. Comment est-ce qu'on peut gérer une nation comme ça, monsieur Sass?
Là, vous avez raison. Hein, on devrait auditer le chantier pour savoir les conditions dans lesquelles le marché a été élaboré, passé, construit jusqu'à la fin. Parce que là, le Lonato, c'est quand même une société publique.
Mais c'est comme on
là, parle, là, vous avez raison.
Privé, hein, on gère ça d'une manière, ça.
Merci non, beaucoup, l'ami Senghor.
Moi, j'ai servi en tant qu'un religieux, un homme de Dieu, parce que toutes les actes que nous posons sur la terre, il y a un retour, hein. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, l'ami Senghor, qui donne le ton. Un deuxième auditeur déjà, qui s'annonce lui aussi. Bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Sylvain Gbaï.
Oui.
Nous vous écoutons.
Bon, je voudrais dire à l'autre journaliste, on ne dit jamais, jamais. Parce qu'on peut trouver un autre mécanisme. L'autre fois, il y a quelqu'un qui a raté un avion.
Quelqu'un
était à Thévié pour le forum là. Il y a quelqu'un qui a raté un avion parce que la route était bloquée. On peut trouver
un mécanisme. Les passages du chef de l'État qui bloquent la voie pour les usagers de la route.
Oui.
Au
Ghana ici, c'est pas ce qu'on veut.
Nous faisons ce plaidoyer que le chef de l'État fasse en sorte que son passage ne constitue pas des blocages pour les autres, parce que c'est l'économie qui ne doit jamais s'arrêter. Oui.
Merci pour beaucoup. La Lonato, Monsieur Sass, les femmes, dames, de pied.
Allô, Sylvain.
Je viens pour la Lonato.
Oui.
Il y a un journaliste qui dit que les femmes, il faut s'occuper d'abord de la femme. Les femmes jouent plus que les hommes. Je vous dis, quand vous faites les sondages, vous allez voir. Les femmes sont des experts dans la Lonato.
Ok. En tout cas, notre inquiétude, c'est que tous ces jeux-là ne créent un phénomène d'addiction et que les gens ne dépendent que de ces jeux au lieu d'aller travailler pour financer notre économie réelle.
Je ne sais même pas que c'est quel investissement.
Non, c'est quand même de l'investissement, Sylvain. Merci beaucoup. Le troisième auditeur qui va s'annoncer aussi. Oui, et qu'il faut en parler.
Allô.
Qu'il arrive. Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Cyprien. Oui.
Eh bien, nous écoutons.
Bien, ça, je crois que le Togo nous appartient tous et il faut que nous disions certaines vérités.
Oui.
Voilà. Donc, concernant l'hôpital, je ne pense pas que c'est comme ça qu'un journal va jouer à la communication pour un hôpital. Il faut laisser l'hôpital Lafia faire son travail au lieu de venir avec un titre phare pour dire qu'à l'hôpital Lafia, c'est... Parce que nous tous, nous connaissons au Togo qu'il y a des critiques. Donc, il faut laisser les responsables venir défendre leur truc. Comme ça.
Cher ami Cyprien, nous sommes des journalistes. S'il vous plaît. Notre travail, c'est de vous informer l'information sur tous les angles de la vie.
Merci, c'est oui. Hypothétique. Hein.
Oui.
Voilà. Sur le sujet concernant Africa 50, le sommet Africa 50, il y a beaucoup d'assemblées générales qui se sont passées dans beaucoup de pays. Je pense que votre confrère. Ne suit pas vraiment les informations. Il y a eu pas mal d'assemblées générales. L'Africa 50 a fait beaucoup de choses au Congo, en Égypte, les deux Congos, au Cameroun, et on voit ça tout le temps sur Africa 24, comme tout dernièrement, il y a Afrique et Développement avec la BIA Togo qui est arrivée et qui font déjà beaucoup de choses à l'extérieur. Il ne faut pas qu'on pense que c'est parce que le Togo, même si j'adore mon pays, il ne faut pas qu'on pense que c'est des choses originales qui se passent tellement ici. C'est comme même si quand on va au Bénin, la fois dernière, j'ai rencontré le ministre d'Amipim, c'est une chaise blanche en plastique qu'on a servi à tout le monde quand la dame, la directrice générale de MCC qui est venue au Togo, est venue au Bénin. Mais pourtant, le Bénin est très avancé dans la MCC.
Le et MCC,
elle a bien fait son travail. Elle est partie,
c'est le quoi. Millennium Challenge Corporation.
Merci, merci, mon cher ami. Voilà, donc il faut que... Moi, je ne pense pas. Hein. Il y a trop de nécessités. Donc, soyons économes de nos mépris. Hein, soyons économes de nos mépris. Il y a trop de nécessités. Et donc, pensons à faire bien plutôt les choses.
Quoi. Merci, l'ami Cyprien. Merci beaucoup. Un autre auditeur. Ok, en attendant le prochain auditeur, Arim Yaou, j'ai cru comprendre que l'ami Cyprien, il a jeté une ou deux piques dans ton jardin.
Non, je crois que... Merci à Cyprien parce qu'il a dit ce qu'il pense. Moi également, je fais mon travail avec toute la liberté que j'ai. Je crois que vous l'avez recadré, il a compris. C'est pourquoi il a changé de sujet. Mais j'ai l'impression que Cyprien n'aime pas du bien quand il s'agit du Togo. Il voudrait bien entendre.
Non, il a dit qu'il aime bien le Togo.
Non, mais c'est pas ce qu'il démontre. Quand j'ai dit que ça fait bien à Dr. Lafayette, il n'est pas content. J'aurais pu faire une analyse pour dire que ça ne va pas à Dr. Lafayette.
Non, non, il a dit que le sommet Africa 50...
Non, je parle de Dr. Lafayette d'abord. Pour le sommet, il a dit que quand j'ai dit que ce n'est pas partout que ça se tient, et que ça se fait partout, et que ce n'est pas originel. Mais je voulais lui faire comprendre.
Oui,
même la CAF, la CAN qu'on joue là, il y a plusieurs pays qui candidatent pour qu'on aille jouer la CAN chez eux, et on choisit. En tenant compte de certains critères.
Merci. Alors, on parle à l'auditeur qui arrive. Oui, bonjour.
Bonjour, Sass. Je vous appelle de Didjolé.
De Didjolé, mon ancien quartier. C'est monsieur
Kofi.
Kofi ?
Oui.
Ça me dit quelque chose, hein ?
Ah.
C'est mon Kofi ou bien c'est un Kofi comme ça ?
Non, c'est un Kofi comme ça.
C'est le Kofi, on se connaît, non ?
Oui.
Et très bien, Kofi, allez-y.
Ok. Je vous ai entendu, je vous ai pris en vol comme ça.
Oui.
J'ai constaté que vous avez parlé des infrastructures qui seront financées et puis un truc.
Nous avons parlé de ce sommet qui s'ouvre aujourd'hui et qui va rechercher des investissements pour les infrastructures dans les pays africains.
Exactement. Bon, c'est à ce sujet que je voulais intervenir. Mais je voulais simplement dire que ces infrastructures qui viennent dans nos pays, au Togo par exemple, et qui sont tout le temps vandalisés par la TDE. Moi, je reviens toujours sur ce phénomène-là, parce que la TDE creuse des trous, elle fait des fouilles sur toutes les infrastructures, un peu partout. Elle ne les recouvre pas. Ça endommage les infrastructures. Moi, je parle des infrastructures routières. Oui. Ça les endommage. Ça crée des embouteillages pas possibles. Ça crée des accidents. Mais ça ne leur dit rien. Quand vous prenez les pavés de Didjolé, où je suis, c'est pas possible. Jusqu'à présent, on se plaint, on dit tout, mais ça leur dit rien. Ils viennent, ils font des interventions, et puis ils partent, ils laissent. Il y a des trous qui durent depuis il y a plus de 2 ans, qui sont là. Quand vous allez vers Assiniller là-bas, c'est des trous un peu partout. Et puis ça leur dit rien.
Oui.
Moi, ça me fait tellement mal, parce que quand on va avoir des financements, c'est des prêts qui sont faits à l'État, donc c'est nous tous qui allons travailler pour payer ces montants-là. Mais si une institution de la République, la TDE, fait des choses comme ça, que ça ne dit rien à personne...
Qui dégrade nos
normal.
Infrastructures.
C'est pas
normal. La TDE gagnerait plutôt à être une société vraiment civique et citoyenne.
Non, elle ne fait pas, elle fait pas un bon
travail. Merci beaucoup, l'ami
Kofi.
Elle ne
fait pas un bon travail.
Nous allons... C'est une obligation pour la TDE d'être une entreprise civique et citoyenne. Donnez le bon exemple. Merci, le docteur suivant, bonjour.
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui, c'est monsieur?
C'est Mathieu.
Mathieu.
Oui.
Oui, nous écoutons.
Oui, j'aimerais intervenir par rapport au Dr. Lafia.
Oui.
Les œuvres qui se font de Paris partout. Et vous savez, le paysan, son premier défaut, c'est parce qu'il est fils de Yadema. Et quoi qu'il fasse, les Togolais trouveront toujours à dire. Donc, moi, si j'ai un appel à lancer, c'est qu'il pense à son départ. Sinon, tout, il peut tout faire. Les gens trouveront toujours à dire. Si un autre président était de nos persoir au décès de son papa et qui avait pu faire ses réalisations, les gens allaient produire des deux pieds, des deux mains. Mais comme les fils du défunt président, c'est fini, tout ce qu'ils font, surtout qu'ils ont trop dur au pouvoir, ah, le Togolais ne veut pas entendre parler. Merci.
Je vous en prie, l'ami Mathieu, no comment, comme dirait, comme on le dirait au Commonwealth. Un dernier auditeur. Oui, l'ami. Oui, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Salte.
Oui, c'est monsieur.
C'est monsieur Delphin.
Pardon?
Monsieur Delphin.
Delphin.
Oui.
De quel quartier?
Adetikopé.
Adetikopé.
Oui.
Eh bien, nous vous écoutons, l'ami Delphin.
Oui, oui. Je voulais juste, vous avez parlé de l'hôpital Docteur Lafia.
Oui.
Je voulais savoir si l'hôpital là est, c'est-à-dire, prend l'INAM et Saham ou pas.
Là,
si quelqu'un a Saham ou pas, l'INAM peut être traité là-bas ou comment? Je voulais un peu savoir par rapport à ça, si vous avez des informations.
Là, nous ne savons pas encore, mais c'est un devoir de maison que vous nous donnez à nous, mais également à vous et à tout le monde, hein, nous informer quelles sont les sociétés d'assurance que l'hôpital Docteur Lafia admet pour ses consultations et ses soins. Le tout dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Monsieur Kofi.
Monsieur, un autre Kofi?
Oui, voilà.
De quel quartier?
De Kijanaoué.
Kijanaoué. Eh bien, nous écoutons.
Oui. Je reviens sur les louanges de votre confrère à propos de l'hôpital.
Mm-hmm. Docteur Lafière.
Oui.
Oui.
Mon prédécesseur d'avant avait posé une question, avait dit des choses et il a répondu. Et vous aussi, vous avez essayé de le recadrer. Si le journaliste est venu nous parler de l'hôpital en tant que patient, on comprendra. Il n'a pas été patient là-bas. On lui a juste montré des appareils. C'est tout. Ça, on le fait souvent, non?
Mmh.
Mais après, c'est pas ce qu'on voit. Ça, c'est un. Je reviens maintenant à la boisson, à la bière. Je vois plein de publicités de ça, un peu partout à Lomé. Je n'ai jamais vu des petites nuances. L'alcool, l'abus de l'alcool n'est pas bon pour la santé. Jamais. C'est quoi? On veut que nous soyons tous des alcooliques ou quoi? Ça fait un.
Ça fait deux.
Maintenant, je reviens sur. Vous avez encore parlé de quoi? Vous avez oublié? Mais les deux là. Ah oui, l'alonato.
Mm-hmm.
Il y a déjà l'addiction. Et déjà, moi, je note une opacité totale dans la gestion de l'alonato. Pourquoi je le dis? On ne sait pas combien ils mettent dans la cagnotte. Après le débrief, après les paris, combien ont gagné dans la cagnotte? Il en reste combien? C'est comme ça doit être. Merci.
Je vous en prie, l'ami Kofi, deux Kofi, Delphin, Mathieu, Cyprien, Sylvain Agbayi et Senghor. Merci à vos interventions. Nous revenons ici au studio, vraiment serré, une minute à chacun pour une dernière précision. Harry Miaou.
Non, bon, je voulais préciser au dernier intervenant pour lui dire que le reportage que j'ai eu à faire, c'est pour attirer l'attention des Togolais et les éclairer, à faire en sorte qu'ils aillent. Mais au même moment, j'ai rencontré des patients. S'il avait lu mon article, il allait comprendre la satisfaction de ces patients qui sont passés par là et qui ont été traités et qui apprécient le traitement. Je ne suis pas obligé, en tant que journaliste, d'être malade pour parler d'un hôpital. Si c'était un mal, j'allais le dire. Il y a quelqu'un qui s'est interrogé. Aujourd'hui, on a lu deux titres. Il y a le titre de l'antenne qui demandait si c'est ouvert à tous.
Oui.
Et Dieu faisant, nous ne sommes pas de la même rédaction. Moi, j'ai fait la solution à ce qu'il dit. Et quelqu'un qui disait qu'on est en train de faire de la pub. Mais nous avons aussi l'obligation, en tant que journaliste, on doit éclairer les masses. Il faut que les gens comprennent que nous ne pouvons pas nous recroqueviller dans nos chambres et dire que nous n'allons pas porter l'information à la connaissance de la population. Mais s'il y a effectivement quelqu'un a téléphoné, tout a appelé dans les Ticopé, qui dit qu'il y a des Togolais qui ne veulent pas du bien du Togo. Parce que je remarque qu'il y a des citoyens, quand vous passez en émission et que vous dites quelque chose qui est blanc, vous dites c'est blanc, ils ne sont pas contents. Ils veulent qu'on dise que tout est noir. Tout n'est pas noir au Togo. Il y a des choses qui sont bien. Moi, je le dirai, j'assume.
Merci.
Quand c'est mauvais,
c'est une
je le dirai également.
La minute est passée. Jean-Baptiste Kodjovi Atiso.
Oui, je crois que l'inquiétude de certains auditeurs concernant la Lonato, c'est une préoccupation réelle. Parce que, vous savez, quand nous avons cette société qui est là et diminue, je crois que le prix du tirage, est-ce que je dis
la mise qui est descendue jusqu'à 100 francs CFA.
Je crois que ça va attirer beaucoup de Togolais à courir auprès de cette société-là pour faire ce jeu. Alors que réellement, pour pouvoir gagner de l'argent, c'est le travail. C'est pas le travail qu'on gagne de l'argent. Et non, en jouant à un jeu de hasard, en se livrant à un jeu de hasard, qui, je précise bien que c'est le hasard avec la probabilité qui est parfois très faible, probabilité de gagner qui est très très faible. Donc c'est que c'est des investissements. Je ne fais pas une mauvaise publicité à la Lonato, mais c'est vraiment la probabilité de gagner est trop mince pour que les gens puissent perdre leur temps et leur argent pour
Merci. Jeu. Une minute, Didier Assogba, qui passe Uriel et Nyang.
Ah, il passe?
Oui, oui.
Ah, ok, d'accord, ça c'est bien. Là, je tiens la...
Uriel?
Et vous savez, nous faisons tous la cour aux investisseurs. Je reviens toujours et toujours là-dessus. Et entre-temps, le chef de l'État avait pris une mesure attribuant certains types de marchés publics aux jeunes femmes entrepreneurs.
Mm-hmm. Entre 20 et 25% des marchés publics nationaux.
C'est beaucoup, c'est trop. Le pourcentage là, il est grand. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, si les gens peuvent faire la situation d'une façon honnête au président de la République, c'est une déception. C'est une déception totale.
Oui.
Les gens ne font pas le travail qu'il faut. Je pense qu'il va falloir revoir ça.
Qui ne fait pas le travail comme
les prestataires, les prestataires.
Aha. Donc les jeunes et les femmes qui gagnent les marchés
publics.
Oui.
Le travail n'est pas bien fait dans tous les secteurs d'une façon générale. Je pense que cette question-là, il faut revoir ça entièrement parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable. Et il faudra que ça soit bien géré pour le bénéfice du pays. Il a bien fait de prendre la décision, mais le travail ne se fait pas bien. C'est pas
merci. Bon. Le club de la presse voudrait discerner deux cartons. Le premier carton vert à la CEB. Le jeudi dernier, nous parlions d'un pylône de la CEB au niveau du village de Adjogidikope, près de Dalavé, où une carrière sauvage de sable menaçait de faire tomber le pylône. Et quelques instants après, la direction de la CEB a dépêché une équipe sur le terrain pour aller regarder. Ils ont partagé avec les informations, la carrière de sable sauvage était à environ 6 mètres du pylône. Maintenant la question, est-ce que le trou causé par la carrière sauvage du sable menace oui ou non le pylône? Nous y reviendrons. Le deuxième carton, il est rouge. C'est à la commune Zio 1 et au marché d'Aveta. Je ne sais pas si vous connaissez ce marché-là. Ce marché qui s'anime tous les 5 jours. Mais allez un jour d'animation du marché d'Aveta.
C'est la route.
Toutes les femmes viennent poser leurs marchandises sur le goudron.
Oui.
Or, la circulation est assez intense. Il y a les camions de la SNPT, il y a les camions de Dangote, il y a les camions de sable. Et le vendredi dernier, il s'est créé un embouteillage monstre.
Oui.
Un camion devait tourner à Détikop, par Aveta et aller à Détikopé. Mais il n'y avait pas de place. Les gens sont restés dans l'embouteillage pendant au moins une heure.
Oui.
Alors, la question à Aveta et à la commune Zio 1, est-ce que nous attendons un carnage? Est-ce que nous attendons qu'un camion rentre dans le marché avec des dizaines de morts avant de commencer à agir? C'est fini pour aujourd'hui. Le club La Presse, nous nous retrouvons demain mardi à 11h si Dieu le veut. et prions que Dieu le veuille.